Voilà, nous allons ouvrir la parole de Dieu. On va faire deux lectures. Chaque fois, ça sera la lecture d'un verset. Première lecture dans l'Ancien Testament, dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 53, verset 5. Ésaïe, chapitre 53, verset 5. Oh, même à partir du verset 3. Verset 3. Donc, il est question de Jésus. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, sur Jésus. Et c'est par les meurtrissures de Jésus que nous sommes guéris. Amen. Un verset dans le Nouveau Testament, premier épître de Pierre, chapitre 2, verset 22. Et les versets qui suivent. Lui, donc Jésus, qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui, Jésus, qui, injurié, ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui, Jésus, qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois de la croix, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui, Jésus, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Amen. Ce matin, je voudrais vous parler de la guérison divine. Le titre du message est celui-ci, Dieu guérit encore aujourd'hui. Vous êtes prêts ? Votre cœur est ouvert. Dieu guérit encore aujourd'hui. Le temps des miracles n'est pas passé. Le temps des guérisons divines n'est pas passé. La première question que je vais poser, celle-ci, et je vais y répondre bien sûr. Tout d'abord, si on parle de guérison, cela sous-entend qu'il y a la maladie et la souffrance. Et la question est celle-ci, pourquoi la souffrance, pourquoi la maladie? Tout d'abord, de dire ceci, quand Dieu a créé Adam et Ève, il les a créés sans aucune possibilité d'être atteint par la souffrance et la maladie. Ça, c'est au début. On retrouve cette vérité dans le livre de la Genèse, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. Mais, il y a un mais. Il y a un petit grain de sable qui va se mettre dans le rouage. Que dis-je ? Une grosse pierre. Cette pierre en question c'est tout simplement la désobéissance de l'homme vis-à-vis de la parole de Dieu. Pourtant, Dieu a créé l'homme parfait. Donc parfait en santé, sur le plan spirituel, sur le plan moral, sur le plan physique, sur le plan psychologique. L'homme a été créé parfait. Mais l'homme a désobéi. Il a désobéi parce que s'est insinué, s'est manifesté dans ce jardin d'Éden. Le serpent ancien, dit la Bible, Satan, le diable, ce chérubin protecteur qui était auprès de Dieu et qui a voulu se révolter contre Dieu et qui a été précipité, rejeté du ciel, et qui a entraîné avec lui dans sa chute des myriades et des myriades et des myriades d'autres anges, de quelque catégorie que ce soit. Et il s'est donné comme but de s'opposer à Dieu et à tout ce que Dieu fait. Il s'est donné comme but de s'opposer à la création de Dieu. Et le premier objectif de Satan, de Lucifer, du diable, du malin, du tentateur, bref, tellement de noms qui lui vont bien, son premier objectif, c'est d'amener l'homme, la créature de Dieu créée à son image, à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, et il a qu'un but, c'est de les éloigner de Dieu, de les éloigner de la bénédiction de Dieu, de les éloigner de ce qui est bon auprès de Dieu. Donc dans le jardin d'Éden, ce chérubin protecteur qui est devenu Satan, il suffit de lire le livre du prophète Ézéchiel, chapitre 28, vous avez les détails de sa chute, de ce qu'il était dans le ciel et de ce qu'il est devenu. Il a été chassé donc de la présence de Dieu et la cause, j'insiste, c'est l'orgueil. Le but donc est de tenter de faire tomber l'homme, la femme, la créature de Dieu. Et il a réussi. Il a réussi. Et le livre de la Genèse nous le rappelle. Il a réussi. Et cela a entraîné chez l'homme la mort physique. Déjà. Parce que l'homme a été créé éternel. Mais la mort est venue. Physiquement. Genèse chapitre 3, verset 19. Ensuite, s'est introduit chez l'homme, à cause de cette chute, de la désobéissance provoquée par l'adversaire, le diable, Satan, eh bien, il y a aussi la mort spirituelle. Elle est relatée, soulignée dans le jardin d'Éden, à partir du moment où Dieu va chasser l'homme du jardin d'Éden et il va placer des chérubins avec des épées flamboyantes devant l'entrée du jardin pour que l'homme n'y vienne pas et ne touche surtout pas à l'arbre qui peut donner la vie. Vous imaginez l'homme éternel sur la terre avec le péché? La mort spirituelle. Et Paul en parle, Romains chapitre 3, verset 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Satan a voulu priver l'homme de Dieu. Satan a voulu priver l'homme des privilèges célestes, divins, spirituels qui viennent de Dieu. Et les conséquences, et là il s'en réjouit, pas nous, ni Dieu, ni Jésus. Les conséquences, c'est la maladie, c'est des infirmités, c'est des douleurs, c'est des souffrances. C'est de la violence, c'est des crimes, de la haine, de la calomnie, des médisances, le désir de détruire son prochain, et la liste n'est pas du tout exhaustive. C'est la conséquence non pas d'un Dieu qui ne nous aime plus, c'est la conséquence du diable qui n'aime pas Dieu et qui n'aime pas les hommes. Trop souvent, j'ai entendu avec une grande tristesse des hommes et des femmes qui mettaient, qui mettent encore aujourd'hui Dieu, Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu, l'Éternel, Dieu qui est amour, Dieu qui est bon, ils le mettent sur le banc des accusés. Depuis toujours, l'homme a tendance à lever le poing contre Dieu parce que, eh bien, il y a de la souffrance, la maladie, des, je l'ai dit tout à l'heure, des crimes, des violences, des viols, des hommes qui tuent des enfants et j'en passe. Alors on dit, où est Dieu? On lève le poing contre Dieu. Mais ça, c'est malheureusement une mauvaise manière de réagir parce que Dieu n'y est pour rien. Je disais à quelqu'un un jour, monsieur, madame, quand vous regardez ce qui se passe dans certains pays dans le monde aujourd'hui, avec les cellules terroristes qui portent différents noms en fonction du lieu où elles se trouvent, quand vous voyez les guerres fratricides, les génocides qui existent dans certains pays encore aujourd'hui, et que quand vous avez les images qui vous remontent aujourd'hui, parce que par le biais des réseaux sociaux, d'Internet, etc., on est informé 24 heures sur 24 à l'instant T. Et quand vous voyez des enfants de 5 ans, 6 ans, 8 ans, 10 ans tenir une Kalachnikov entre les mains et qui sont engagés, enrôlés pour tuer leurs semblables, c'est pas Dieu qui a mis la Kalachnikov entre les mains de l'enfant. C'est l'homme qui a mis l'arme entre les mains de notre être humain. C'est pas Dieu qui appuie sur la détente. C'est l'homme qui le fait. Et l'homme est ainsi parce que le péché le domine. Et avec cela, ça crée des désordres, des problèmes, des combats, des luttes, des larmes, des souffrances atroces. Dieu n'y est pour rien. Alors, j'ai pas le besoin, ce matin, j'aurais normalement pas besoin de me faire le défenseur de Dieu. Il n'a pas besoin de moi pour se défendre. Je ne me pose pas en tant qu'avocat de Dieu. Je suis en train de vous rappeler des vérités spirituelles que la Bible elle-même souligne. Par rapport à ce qui nous touche maintenant de près. La Bible dit dans l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 10, c'est Jésus qui le dit, « Le voleur ne vient que pour dérober, il ne vient que pour égorger, il ne vient que pour détruire. » Mais Jésus dit, « Moi, Jésus, le Fils de Dieu, Dieu au milieu des hommes, alléluia, je suis venu afin que les hommes, les brebis, afin que vous et moi, tous les hommes, aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance. » C'est pas le diable qui dit ça. Lui, il dit, moi, je suis venu. Le diable dit, je suis venu, puisque Jésus le dénonce ainsi, pour détruire. Je suis venu pour égorger, je suis venu pour violenter les hommes, je suis venu pour les pousser à la méchanceté. Mais Jésus dit, moi, je suis venu pour faire le contraire. Et quand quelqu'un souffre, quand quelqu'un a mal, quand quelqu'un n'est pas bien, sur le plan intérieur, sur le plan de son âme, sur le plan physique d'ailleurs, très souvent les deux sont liés. Vous savez, quand vous apprenez que vous êtes atteint d'un cancer, que le médecin ou le spécialiste, l'oncologue vous dit, monsieur, madame, effectivement après les examens que nous venons de faire, je voudrais vous dire que vous avez tel cancer. Il va falloir vous armer de courage, de beaucoup de patience et suivre le protocole de soins que nous vous proposons. La première réaction que l'on a quand on apprend cela, c'est la révolte. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Quelqu'un qui ne réagit pas comme ça, il n'est pas normal. Hein. La première des choses, c'est une révolte. Bien, c'est pas possible. C'est... La deuxième étape, c'est la résignation. Et la troisième étape, c'est l'acceptation. Ça, c'est le côté humain. C'est normal. Même un chrétien qui apprend qu'il est atteint d'un cancer, il y a cette réaction-là. Même quelqu'un qui a l'espérance en Dieu, à part que vous soyez ultra spirituel, mais il n'y en a pas. Mais si vous en doutez, je ne souhaite pas que vous soyez atteint d'un cancer et qu'on vous l'annonce. Mais la première réaction, c'est une révolte. Et en tant que chrétien, on va dire, mais Seigneur, quand même, où tu es? Qu'est-ce que tu fais? M'as-tu abandonné? Etc., etc. C'est la première réaction. Après, on se résigne un peu. On dit, mais bon, c'est comme ça. Et puis la troisième réaction, bien sûr, même chez quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, eh bien, c'est d'accepter, de dire, okay, on attaque le protocole de soins. Mais même un chrétien, il va dire, d'accord, on y va, on fait les soins qu'il faut faire. Radiothérapie, chimiothérapie, pas de problème. Mais la différence avec un chrétien, c'est que là, il va se ressaisir et dire, Seigneur, je vais mettre toute ma foi en toi. Parce que Dieu guérit encore aujourd'hui. J'ai pas le temps ce matin, à un moment donné, je vais vous donner le témoignage de ma propre fille, qui est passée par un temps très compliqué, très douloureux. Je vous donnerai ce témoignage à la fin. Mais je voudrais vous dire ceci, c'est que Dieu guérit. C'est par les meurtrissures de Jésus que nous sommes guéris. Il n'est pas dit que nous serons peut-être guéris. Parce que les médecins, quand ils vous annoncent un problème comme celui que je viens de souligner, il n'y a pas de certitude au bout de guérison. Mais on va quand même faire la démarche. Mais en même temps, pour celui qui a la foi en Jésus-Christ, il va eh bien, mettre toute sa confiance. Il va prier. Il va demander à l'Église le soutien dans la prière. Le pasteur sera là pour prier avec lui, avec eux. Alors, si c'est un cancer, ça peut être autre chose. Ça peut être une maladie. Il y en a tellement différentes. Des maladies orphelines qui entraînent bien des détresses, pas seulement dans le corps de la personne qui est touchée par ce genre de maladie, mais par l'entourage qui doit porter, qui souffre, qui pleure. Et je voudrais vous dire ce matin, mes frères et sœurs, au-delà de ce message qui nous parle de ce fait que Dieu guérit encore aujourd'hui, qu'il faut rester dans la foi en Jésus-Christ quand on prie pour les malades, je voudrais quand même vous dire qu'il faut malgré tout, les uns, les autres, au sein de l'Église, de la compassion. Attention à certaines idées reçues. Qui sont, je le dis, hein, qui sont fausses quand elles sont exprimées d'une manière inadaptée. Je répète, parce que je voudrais pas qu'on me fasse dire ce que je ne dis pas quand je prêche la parole de Dieu, c'est pour ça que je vous demande de bien écouter, mais je voudrais attention à certaines idées reçues qui sont fausses quand elles sont exprimées d'une manière inadaptée. C'est clair ce que je dis là. Alors je les donne, ces idées reçues. La première, la souffrance se rapproche de Dieu. Ce n'est ni obligatoire, ni automatique, et ni systématique. Première réponse. La deuxième, la souffrance, elle purifie toujours. Il en est pour qui la souffrance, la maladie, a été plutôt une occasion de chute. Troisième, la souffrance est une punition, ou la maladie. Alors permettez-moi de vous dire que c'est trop superficiel et trop vite dit. La quatrième, la souffrance vient du diable et du péché. Oui, dans une certaine mesure. Mais malgré tout, c'est un raccourci qui ne résout rien quand il est utilisé sans un minimum d'explication et de nuance. Quelqu'un qui vient vers une personne et de lui dire, je dis ça quand même parce que c'est important sur ce point-là, de dire, écoute, t'inquiète pas, c'est normal, c'est le diable, c'est le péché, ou peut-être un péché aussi. Franchement, si vous parlez comme cela, vous n'avez rien compris à la vie chrétienne. Parce que Jésus ne vient pas vers nous pour nous parler comme cela. Pas du tout. Pas du tout. Il faut bien sûr, quand on dit que la souffrance vient du diable, et j'en ai un peu parlé tout à l'heure, très succinctement dans mon introduction, et qu'elle peut venir du péché, c'est un fait, ça peut arriver, bien sûr, la Bible donne des exemples, mais il faut expliquer, il y a des nuances. Une autre idée reçue, c'est Celle-ci, celui qui souffre a certainement péché. Donc j'insiste là-dessus, et cette équation est fausse. Pourquoi ? Parce que ça peut arriver, mais il ne faut pas en faire, je dirais, un slogan, dans le sens que Jésus, lui-même, a souffert, il n'avait pas de péché. Et quand on est catégorique dans une telle expression, on est en train de dire que Jésus a péché, puisqu'il a souffert. En tant que homme sur la terre, tout en étant pleinement Dieu, il a souffert. Il a éprouvé des angoisses dans le jardin de Gethsémané. Relisez bien les évangiles, ce qu'on appelle la passion de Christ. Ça marche vers la croix. La croix, c'est une souffrance atroce. Ah, Jésus a péché. Mais non, Jésus n'a pas péché. Jésus est demeuré sans péché. Pur, impeccable, parfait. Alléluia. L'agneau de Dieu qui ôte le péché des hommes et des femmes qui croient en lui. Une autre, celui qui souffre manque de foi. Je voudrais vous dire ceci, c'est que celui qui parle ainsi à quelqu'un, il augmente la souffrance de celui qui souffre. Ah. Et là, ces idées reçues qui sont fausses, parce qu'elles ne sont pas exprimées d'une manière inadaptée, malheureusement, on les entend parfois dans les églises. Alors il faut arrêter. Et puis la dernière, si je puis dire la dernière, celui qui souffre devient méritant aux yeux de Dieu. Ben, ce raisonnement est complètement faux. Voyez-vous, mes frères et sœurs, mes amis, nous dépensons beaucoup d'énergie dans notre vie intérieure pour combattre, pour gérer, pour réprimer, pour supporter, pour maîtriser, pour dominer la souffrance. Et paradoxalement, je dirais, elle est parfois moins bien vécue, la souffrance, la maladie, en milieu chrétien, à cause des jugements et des culpabilisations qui vont avec. Et dans mes visites, je rencontre des hommes et des femmes, des chrétiens même, de cette église, de d'autres églises où nous avons servi le Seigneur, qui sont continuellement culpabilisés. Je leur dis, arrêtez de vous culpabiliser. Oui, mais un tel m'a dit ça. Vous n'écoutez pas. C'est ce que dit la Bible qui est important. Et ceux qui parlent à tort et à travers, à un moment donné, à force de dire des bêtises, eux-mêmes vont être confrontés au même problème, et là peut-être, ils réviseront leur manière de parler. Parce qu'on est jugé à la mesure dont on a jugé les autres. Je fais très attention avec cela. On ne peut pas se permettre cela. Alors quelqu'un qui est dans la culpabilité, il n'entrevoit en général qu'une solution, ne plus souffrir. Point de suspension. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça ne veut pas dire que quelqu'un va se tourner directement vers Jésus pour être guéri. Parfois, on en a connu qui se sont tournés vers le suicide. Attention de ne pas être, je suis sérieux ce matin-là, comme à chaque fois d'ailleurs, mais attention de ne pas être l'instrument qui pousserait quelqu'un au suicide. Parfois, il vaut mieux se taire et prier plutôt que de vouloir toujours dire des choses qu'on ne maîtrise pas, qu'on n'a pas les éléments doctrinaux, bibliques, spirituels de la doctrine de notre Seigneur. Parce que sur Internet, il y a des tas de choses qui sont dites et c'est complètement faux, très souvent. Allons dans la parole de Dieu. Ne plus jamais être malade, c'est leur désir. Alors ils font parfois des tas de choses incroyables. Ne plus avoir de douleurs et de difficultés. Là aussi, ils sont dans la culpabilité. Alors ils vont essayer à faire des tas de choses. Ils vont, j'en ai connu moi, personnellement, mais même indirectement, des personnes comme cela, et qui, malheureusement, de par leur culpabilité, par rapport à la maladie, à la souffrance, eh bien, se sont trouvés déstabilisés et ont fini par faire n'importe quoi. Ils ont cru qu'il fallait jeûner pendant 40 jours et 40 nuits pour être guéris. Ils se sont retrouvés à l'hôpital. Et pas seulement là le problème. Parfois, des parents qui font la même chose avec leurs enfants. Attention, parce que ça amène à de la fragilisation. Ça fragilise des chrétiens. Et le résultat n'est pas la consolidation de leur vie spirituelle, c'est de la fragilisation. Alors on les voit malheureux, ils s'épanouissent pas, ils ont du mal à prendre leur place dans l'église, ils ont du mal parfois de prendre leur place dans la société, parce que même dans le monde, parfois on ne peut être catalogué par rapport à ce dont vous pouvez souffrir. Et il y en a tellement de maladies qui sont malheureusement cataloguées de cette manière-là. Il m'est arrivé, et là je reviens sur le plan de la démarche spirituelle vers le Seigneur, car c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Il m'est arrivé dans mon ministère de voir des tas de personnes répondre à l'appel pour la guérison, et tout à l'heure je ferai un appel avant de terminer ce culte. Permettez-moi d'arriver au bout de mon sujet, c'est tellement important. Et j'ai vu deux personnes atteintes du même mal. Je prie pour l'une, au nom de Jésus-Christ, elle est guérie. Je prie pour la deuxième, au nom de Jésus-Christ, avec la même foi, elle-même vient avec la même foi que l'autre. Elle n'est pas guérie. Vous allez dire à cette personne, bah écoute, si tu n'es pas guérie comme l'autre, c'est parce que tu as péché, c'est parce que tu n'es pas fidèle, c'est parce que ceci, c'est parce que cela, j'ai fait toute la liste tout à l'heure des idées reçues, inadaptées. Vous savez ce qui va se passer? La personne en question, je l'ai dit tout à l'heure, elle va se culpabiliser et elle va faire des bêtises et vous allez être l'instrument de la bêtise qu'elle va commettre. Le Seigneur nous demande d'être des instruments de bénédiction, d'encouragement, de paix, de joie. Alors bien sûr, parfois, on ne peut pas toujours être bien compris, mais l'essentiel, c'est que le cœur soit encouragé de celui qui souffre. Quand on souffre, c'est pas toujours évident. Un collègue me disait, dans le cadre d'une mission, il a commencé la mission, il est arrivé, il était en forme, en partant la mission, il arrive à la mission, il tombe malade. Alors c'était pas un cancer, c'était une angine avec les sinus bouchés, enfin il était pas bien quoi. Alors il avait deux possibilités, soit il rentrait chez lui, la mission, voilà. Mais il était déjà sur place. Alors, il a dit, c'est pas grave, je vais demander à Dieu de m'aider et je vais prêcher l'évangile. Et tous les soirs, il faisait un appel pour, eh bien, le salut des âmes, pour ceux qui voulaient accepter Jésus comme sauveur, pour le pardon de leurs péchés. Et puis, il y avait aussi un appel pour les malades. Et beaucoup de malades venaient, ils priaient pour eux, au nom de Jésus, avec le pasteur de l'église, au nom de Jésus. Ils étaient guéris. Et lui, il rentrait le soir dans sa chambre, et il priait, il disait, merci Seigneur d'avoir béni cette soirée. Alléluia, d'avoir confirmé ta parole. Mais pourquoi tu me guéris pas? Ça a duré toute la mission. Le jour où il quitte la ville où il était en mission, bim, sur la route, il est guéri. Vous avez une explication à cela? Moi, j'en ai pas. Parce qu'à force de vouloir tout expliquer, non. Il y a le paramètre de la volonté de Dieu. Dans la deuxième épître à Timothée, au chapitre 4 et le verset 20, Paul va dire, ça va s'afficher, normalement, de Timothée, chapitre 4, verset 20, Paul parle de Trophime. Trophime qui est resté, du moins Paul l'a laissé, malade à Milet. Alors, écoutez-moi bien, parce que c'est intéressant. Alors certains, ils tombent juste sur ce texte, et puis disent, voyez, Trophime, Paul n'a rien pu faire pour lui. Il l'a laissé malade à Milet. Donc c'est que Trophime, vu la carrure spirituelle de l'apôtre Paul, Trophime a dû faire quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Ça, c'est un raccourci. Vous l'avez compris. Quand vous lisez Actes chapitre 21, verset 29, vous allez vous rendre compte que Trophime, on sait d'où il vient, parce qu'il est par, il est par, il est, on voit son prénom et la ville d'où il est natif. Trophime d'Éphèse. Et ça, c'est un renseignement important. Trophime d'Éphèse. On peut donc, par rapport à ce renseignement, supposer que Trophime avait assisté à l'exercice du ministère de Paul dans la ville d'Éphèse. Et pourquoi pas, la Bible ne le dit pas, mais on peut, pourquoi pas, le penser, qu'il s'est converti à Dieu à cette occasion. Et le travail de Paul dans la ville d'Éphèse, relisez l'épître de Paul aux Éphésiens, le travail de Paul dans cette ville fut tel que la Bible précise que Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, acte 19, verset 11. Et on peut supposer que Trophime fut un spectateur de ces choses, de la puissance de Dieu, de ces gens qui quittaient les œuvres des ténèbres, les pratiques magiques, les pratiques occultes. Dieu bénissait, Dieu agissait dans la ville d'Éphèse qui était très occulte, très ténébreuse. Et là, Trophime a vu la puissance de Dieu. Il a vu des miracles. Il a vu des conversions. Il a été au bénéfice de cette réalité et il a été même un collaborateur de l'apôtre Paul. C'est aller même plus loin, puisque Trophime, acte 20, verset 4, 5, il était, nous est-il dit, Trophime, avec beaucoup d'autres hommes, qui étaient avec Paul, qui l'ont précédé à Troas, et qui, donc Trophime était là, a assisté à cette fameuse réunion interminable, comme ça va être le cas ce matin. Merci mon frère pour ton encouragement. Et le fameux Eutychus qui était au bord de la fenêtre, merci Seigneur parce qu'elles sont un peu plus hautes ici, il est tombé et il a été relevé mort. Alléluia. Je ne dis pas Alléluia parce qu'il est mort, mais je dis Alléluia par rapport à la suite. Il était aux premières loges pour assister justement, acte 20, verset 12, à la résurrection de ce jeune homme, Eutychus. Et c'est cet homme, Trophime, qui a été laissé malade à Milet. Normalement, si je suis le raisonnement de tellement de personnes, normalement, Trophime n'aurait jamais dû être malade. Eh bien non, mes frères et sœurs. Même nous, les pasteurs, nous tombons malades. Ah, mais ça vous étonne. Même nous, les pasteurs, on peut avoir un cancer. Même nous, les pasteurs, on fait parfois de l'attention, on doit aller voir un cardiologue. Même nous, les pasteurs, on est obligés parfois de se faire opérer. Mais ce n'est pas pour cela qu'on n'a pas prié, mais pourquoi Dieu le permet? Parce qu'il a ses raisons. Et les raisons qui sont les siennes, on ne les comprend pas tout de suite. Mais avec le temps, elles deviennent plus claires, parce qu'on pourrait se poser la question par rapport à Trophime, était-ce donc la fin de la guérison divine? Mais le livre des Actes des Apôtres mentionne encore dans son dernier chapitre, acte 28, vous le lirez, ça va s'afficher, versets 3 à 6, versets 7 à 9, plusieurs guérisons dues à la grâce et à la puissance de Dieu en Jésus-Christ. Si Trophime appartenait à l'équipe missionnaire qui accompagnait l'apôtre Paul, il est un autre d'ailleurs, pour amplifier, je dirais, mon raisonnement spirituel, il est un autre de ses collaborateurs nommés Épaphrodite, qui est mentionné dans l'Épître aux Philippiens comme ayant été tout près de la mort, et il a été relevé également par Dieu au moment où Dieu l'a décidé. Philippiens chapitre 2, versets 25 à 27. Épaphrodite. Mais cette vie-là, cette vie qui est celle des serviteurs de Dieu de l'époque, c'est la même que la nôtre. Elle est vécue dans le naturel, nous sommes dans le naturel. Les chrétiens ne sont pas devenus des extraterrestres, à ce que je sache. Mais moi, quand je vous vois, vous êtes comme moi. Pourquoi je dis ça? Parce que les chrétiens rient, mais ils pleurent aussi. Ils ont des relations sociales, et oui, on n'est pas toujours enfermé dans ce lieu, qui les accablent ou qui les réjouissent. Ils ont un travail qui est pénible, parfois. Il y a des professions où il y a une pénibilité au travail, plus que d'autres. Et puis, il y en a d'autres qui ont une profession où ils s'épanouissent. Je ne dis pas que là où c'est pénible, ils ne s'épanouissent pas. Mais il peut y avoir le côté pénible et il peut y avoir le côté épanouissant. Et les chrétiens qui nous ont déjà précédés dans les siècles passés, il y a des années en arrière, ils sont tous enterrés. Ils ne sont pas quelque part, là, dans un coin. Non, ils sont tous. On a assisté à leurs funérailles. On a présidé leur service d'inhumation. Et un jour, eh bien, on présidera la vôtre et la mienne. Même Dorcas, Actes chapitre 9, verset 40. Même Dorcas qui fut pourtant ressuscité par Pierre, selon la volonté de Dieu, au nom de Jésus, a fini par mourir. Même Lazare qui a été ressuscité par Jésus, alléluia, il a fini par mourir. Même si le Seigneur vous accorde aujourd'hui la guérison dans votre cœur d'une manière miraculeuse, un jour ou l'autre, vous risquez de retomber malade et voire même de mourir. Mais j'aurais mieux fait de rester chez moi ce matin. Certains sont en train de mourir en martyrs. Dans certains pays où les chrétiens sont persécutés. Pendant que je vous prêche la parole, ils sont en train de mourir à cause de leur foi. Certains meurent dans leur sommeil. Quelle belle mort. Certains vont mourir rassasiés de jour, dans leur blanche vieillesse, comme dernièrement un de mes collègues pasteurs que j'ai très bien connu pour l'avoir invité tant de fois dans des missions, c'est le pasteur Philippe Marcadier qui a rejoint le maître à l'âge de 92 ans, rassasié de jour. Et il y a aussi cet affaiblissement physique parfois dont on ne se relève jamais. D'ailleurs, quand on lit le deuxième livre des Rois, au chapitre 13, verset 14, même le prophète Élisée, qui a accompli deux fois plus de miracles que le prophète Élie, a été atteint de maladie, et cette maladie, nous dit le texte, l'a amené à la mort. Toutefois, il mourut en dehors de tout affaiblissement spirituel, comme le récit le montre bien. Non, non, c'est un homme qui est resté spirituel jusqu'au bout, mais à un moment donné, il est tombé malade et la maladie l'a entraîné à la mort. Pourquoi Dieu ne l'a-t-il pas relevé? Pourtant, c'est pas n'importe qui. Il a accompli deux fois plus de miracles que le prophète Élie. Mais mes frères et sœurs, Dieu guérit encore aujourd'hui. Mais il arrive un moment donné où il faut mourir. Le surnaturel ne chasse pas le naturel dans ce domaine. Alors la guérison est possible. La guérison est possible. 1 Pierre chapitre 2, verset 22, on l'a lu tout à l'heure, c'est par les meurtrissures de Jésus que vous avez été guéri. C'est déjà fait. C'est déjà acquis. Le verbe grec traduit par guérir comporte des significations allant dans les directions suivantes. Je les cite. Guérir, soigner, raffermir, consolider, libérer des erreurs et des péchés et apporter le salut. C'est là toute la signification de ce verbe grec traduit par guérir. Il faut donc s'efforcer, mes bien-aimés, de coller à la réalité, de ne pas faire l'apologie de la souffrance et se maintenir tout simplement, on n'a que cela à faire, dans la foi que Dieu est capable de secourir ceux qui souffrent, ceux qui sont malades. Pierre chez Corneille va dire ceci, acte 10, 38, « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec Jésus. » Et le verbe hébreu de Ésaïe qu'on a lu tout à l'heure, Ésaïe chapitre 53, le verbe hébreu pour parler de la guérison, c'est le mot, le verbe Rapha. C'est pour ça que j'ai appelé mon fils Raphaël. Elle, Dieu, Rapha, en hébreu, ça veut dire guéri. Dieu guérit. Et quand je suis malade, je dis à mon fils, laisse-moi te regarder un petit peu. Non, là, j'exagère. Je regarde vers Jésus. C'est un beau nom, Raphaël. Mais Jésus est le plus beau des noms. Non, parce que je vois qu'il commence à faire. Rapha. Il ne savait pas que j'allais... Souvent, je l'appelle comme ça, je l'appelle pas Raphaël, je l'appelle Rapha. Rapha. Oh, Rapha. Là, c'est le côté marseillais qui ressort. Quand je l'appelle Rapha, qui répond, en effet, je suis en train de lui dire « guéri ». Eh oui. Et il signifie les choses suivantes, ce verbe « Rapha ». Ça signifie également, bien sûr, « guérir », »,« rétablir », »,« assainir », »,« rendre salubre », »,« devenir saint », »,« pardonner », »,« réparer », »,« guérir des maux des nations impliquant un retour en grâce », bien sûr, et « guérir des détresses des individus ». Alléluia. Ésaïe 53, verset 5, « Mais il était blessé pour nos péchés, il a été brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus, et c'est par les meurtrissures de Jésus que nous sommes, il n'est pas écrit juste après « somme », peut-être, non, que nous sommes, c'est une affirmation, guéri. Il y a dans ce verset deux grâces qui découlent de la croix, le pardon des péchés et la guérison des corps. Matthieu 8, verset 16 à 17, il nous est dit, le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démonats, qu'il chassa les esprits par sa parole, il guérit quelques malades. Pardon ? Alléluia. Il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète, on y revient. Il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Donc tous ceux et celles qui souffrent, tous ceux et celles qui sont malades, qui sont là ce matin, ceux qui m'écoutent sur le site de notre église, je vous invite à jeter un regard renouvelé de foi vers Jésus. C'est dans ces meurtrissures que vous avez au temps de Dieu, que vous avez au temps de Dieu la guérison. Pour la guérison des corps, comme pour le salut des âmes, le centre de la foi chrétienne, c'est toujours la croix du calvaire où Jésus a tout accompli. Jésus a vaincu Satan. On en a parlé tout à l'heure en introduction. Jésus a vaincu Satan. Une terrible réalité, c'est l'homme qui donne au diable des armes dans lesquelles le diable peut se confier. C'est ça le problème. C'est quoi ces armes? C'est l'incrédulité. Quand vous lisez les évangiles, on voit que dans certains endroits où il y avait l'incrédulité, Jésus ne pouvait pas faire grand-chose. Ce n'est pas la faute de Jésus. L'incrédulité, le refus de repentance, le péché qui peut être entretenu, bien sûr, Dieu est saint. Des pratiques magiques, des pratiques occultes, quand on prie pour les malades et qu'on leur impose les mains selon l'enseignement biblique, Marc chapitre 16. On le fait au nom de Jésus, non pas que le nom de Jésus est magique, mais le nom de Jésus nous ramène à la croix, où il a tout accompli, pour le pardon de nos péchés, pour le salut de notre âme et pour la guérison de nos corps et de nos cœurs. Nous ne sommes pas des guérisseurs. Les guérisseurs sont en opposition à Dieu. Ils accomplissent des actes qui sont en abomination aux yeux de l'Éternel. Non. C'est l'œuvre de Dieu, de Christ, en réponse à la foi et à la prière et à une obéissance à la parole de Dieu. Mais tant que toutes ces hypothèques subsistent, je l'ai dit, l'incrédulité, etc., la délivrance ne peut s'opérer, ça arrive. Par contre, quand par la foi, en Christ, la justice de Dieu se trouve satisfaite, il n'y a plus aucune condamnation possible qui puisse accabler l'enfant de Dieu, dit Paul aux Romains, chapitre 8, verset 1er. Les hypothèques ont été payées par lui, Jésus le Rédempteur, qui a pris sur son compte l'obligation et le droit de rachat. Et Jésus, lors de son ministère sur la terre, qui continue par l'action du Saint-Esprit aujourd'hui, par le moyen de l'Église, a guéri les malades, continue à les guérir, et il l'a fait pour plusieurs raisons. La première, pour montrer son amour. La deuxième, pour me démontrer ses compassions qui ne sont pas à leur terme. La troisième, pour montrer sa divinité. La quatrième, pour démontrer sa puissance. La cinquième, pour montrer la vérité de son message. Et la sixième, pour accomplir toutes les prophéties qui concernent sa personne. Alléluia. N'oublions pas, mes bien-aimés, que grâce au sacrifice expiatoire, l'expiation, c'est couvrir, ôter le péché. grâce au sacrifice de substitution, substitutif, c'est prendre la place d'un autre. Jésus, rédempteur de notre âme, à la croix, manifeste ainsi cette réalité que lui seul a le pouvoir de guérir entièrement. Toute puissance, tout pouvoir, toute autorité lui a été donnée dans le ciel et sur la terre. Il guérit entièrement l'esprit, l'âme et le corps. Le Seigneur dit, je vais guérir ton corps mais pas ton âme. Non, Jésus guérit le corps, l'esprit, l'âme, la totalité de notre être. Nous offrons ainsi gratuitement également un salut parfait. Je lisais cette histoire. Dans un train, ça s'est passé dans un train de Finlande, une dame se trouve en face de deux jeunes filles qui parlent de leur projet de voyage en Amérique et tout l'argent qu'elles y gagneront. Et cette dame qui est en face d'eux, c'est une dame chrétienne. Elle leur dit à ces deux jeunes filles, mais vous savez, l'argent ne fait pas le bonheur. Moi, je connais un pays où l'on trouve le vrai bonheur. C'est sa manière de rendre témoignage. Et au moment de les quitter, elle tire un Nouveau Testament de sa poche, elle leur tend en disant, bien, vous allez y trouver, là, dans ce petit livret, ce petit Nouveau Testament, vous allez y trouver, jeunes filles, les directives nécessaires pour atteindre ce pays. Et l'une d'entre elles dit, mais madame, on n'en a pas besoin de votre... Et puis l'autre, par contre, le prend et le met dans sa poche. 6 ans plus tard, cette dame se retrouve dans le train. Une jeune femme s'assoit en face d'elle, avec une petite fille de 2 ans. Et elle regarde la dame et dit, mais madame, vous ne me reconnaissez pas ? Et la dame, un peu de mal, elle dit, mais vous vous souvenez sans doute des deux jeunes filles en partance pour l'Amérique auxquelles vous avez donné un Nouveau Testament ? Et là, elle dit, ah oui, je me souviens. Et elle lui raconte ceci, cette jeune femme. Elle dit, après une vie aventureuse, on est allé dans tous les sens, dans tous les lieux, dans... Mon ami s'est suicidé. Moi, j'ai trouvé un bon mari. Et après 3 années de vie heureuse, il est tombé gravement malade. Et c'est alors que je me suis souvenu de votre Nouveau Testament, madame. Et nous avons commencé à le lire avec mon mari malade. On l'a lu ensemble, côte à côte. Et mon mari, malade, y a trouvé son Sauveur et son Seigneur Jésus. Ses forces ont rapidement décliné, il est allé rejoindre son Seigneur dans le royaume des cieux. Et avant de mourir, il m'a dit ceci, il m'a supplié de mettre ma confiance en Jésus-Christ et d'élever notre fillette dans la foi chrétienne. Pendant plusieurs jours et plusieurs semaines, j'ai été malade de chagrin. Je pleurais. J'étais découragé. Mais je me suis ressaisi et je me suis souvenu que mon mari malade qui était en train de mourir m'a demandé de m'attacher à ce petit livre, le Nouveau Testament. Et j'ai placé ma confiance pour le reste de ma vie en celui dont parle le Nouveau Testament. Et il m'a guéri de ma douleur, il m'a guéri de ma détresse, il m'a guéri de tous les problèmes de santé qui étaient liés à tout cela suite au décès de mon mari. Et aujourd'hui, madame, je me mets devant vous, là, Dieu a permis que 6 ans plus tard, on se retrouve pour que vous sachiez que ce que vous avez fait pour moi, en le faisant, vous avez sauvé ma vie. Je vais terminer, le temps passe. J'aurai beaucoup de choses à dire, mais je vais m'arrêter là. Juste avec le témoignage de ma fille. La démarche qui fait bouger le bras de Dieu, la main du Seigneur, c'est la repentance et la foi. Même un chrétien, depuis de longues dates, marchant avec le Seigneur, a peut-être besoin de se repentir. Nous avons un avocat fidèle et juste, Jésus, auprès du Père, un avocat fidèle et juste, qui intercède pour nous, qui est avec nous. Il a dit, je serai avec vous, afin de nous relever, de nous pardonner, de nous guérir. Il est toujours là, le jour, la nuit, quand vous pleurez, quand vous souffrez, quand vous avez mal, quand vous n'en pouvez plus, quand vous êtes découragé. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, nous les pasteurs, on passe aussi par là. Je voudrais vous dire que Jésus est toujours là. Le témoignage de ma fille. Il y a quelques années de cela, nous avons passé 4 années en Guadeloupe à servir le Seigneur dans 3 églises. À relever ces églises où il y avait eu des chutes pastorales. Et pendant 4 ans, on a travaillé de tout notre cœur. On a prêché l'évangile avec des collaborateurs formidables. Dieu guérissait, Dieu sauvait, Dieu délivrait des possédés. Dieu permettait que l'église se multiplie avec des conversions. On voyait des choses extraordinaires. Dieu nous ouvrait des portes. Je vous dis tout ça, vous allez comprendre pourquoi. Dieu nous ouvrait des portes au niveau de la mairie. On avait tout gratuitement. On prêchait l'évangile dehors. Bref. Et j'ai donné quelques témoignages vendredi soir de ce que nous avons vu. Des miracles. Des portées. Et un jour, notre fille, qui était alors adolescente, préadolescente, elle était adolescente, elle avait 15 ans. Elle était au lycée, et un jour on nous appelle en urgence du lycée. Notre fille venait de faire un malaise. Et là, de suite, il y a eu l'intervention des médecins et il y a été diagnostiqué ce qu'on appelle la maladie de Wilbrandt. Alors vous chercherez sur Internet, il y a plusieurs stades, la maladie de Wilbrandt. J'ai, avec mon épouse, nous avons vécu les moments les plus douloureux de notre vie. Amener notre fille pratiquement régulièrement à l'hôpital de Pointe-à-Pitre pour lui faire des batteries d'examen, où ces batteries d'examen, c'était des souffrances pour elle. On la voyait pleurer. C'était terrible. On se jetait aux pieds du Seigneur. Et on lui disait, Seigneur Jésus, mais guéris-la. Et rien ne se passait, excusez-moi. Ça m'émeut toujours de raconter ce témoignage. Rien ne se passait. Et elle souffrait de plus en plus. Quand vous êtes aux Antilles, vous n'avez pas besoin d'aller à la plage pour bronzer. Il fait tellement chaud que dans les voitures, dehors, parce que vous vivez comme ça, vous avez un teint bronzé, un teint allé. Mais notre fille ne faisait plus de mélanine. C'est-à-dire qu'à cause de cette maladie de Wilbrandt, qui est une perte de sang, mais excessive, eh bien, elle n'avait plus de pigmentation, elle devenait de plus en plus pâle. Elle perdait des forces, elle perdait l'appétit. Elle était petit à petit en train de mourir. Et là, les médecins ont eu le courage de nous dire à mon épouse et moi-même, de dire, écoutez, le stade où elle se trouve par rapport à cette maladie de Wilbrandt, eh bien, est un stade quand même important, au point que nous n'avons pas de médicaments, nous n'avons pas de solution. Monsieur, madame, préparez-vous, car dans 5 ans, votre fille mourra. Alors là, bam, ça vous tombe dessus, bam. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, parce que je l'ai vécu comme cela. Vous savez, vous ne me connaissez pas encore vraiment. Nous avons vécu ça, mais comme une douleur. Et avec ma femme, on disait, mais c'est pas possible. On voyait des miracles, des prodiges, des bénédictions, je le répète, des conversions. La bénédiction de Dieu. Et rien n'y faisait, notre fille était en train de mourir au fur et à mesure. J'en parle à mes collègues de la pastorale Antilles-Guyane. Et je leur dis, voilà mes frères, on est désespérés. Et mes frères, mes collègues, comme c'est le cas même en métropole, en France métropolitaine, ont eu cette démarche tout à fait normale. Mais là, c'est aller plus loin que de me dire, Laurent, dis à ta femme que nous prions pour vous et nous prions pour votre fille, Mélanie. Non, c'est aller plus loin que ça. Le président, et je le cite, le président de la Fédération Anti-Guyane, des Assemblées de Dieu Anti-Guyane, qui est le pasteur Fred Tagliamento de Pointe-à-Pitre, a dit à l'ensemble des collègues, il leur a dit, mes frères, mercredi prochain, on était dans une semaine de jeûne et de prière sur toute l'île. Il leur a dit, mercredi prochain, le sujet principal de la prière pour ce jour-là, dans le jeûne et la prière, sur toute l'île, on va le transmettre à tous les chrétiens de l'île, c'est de prier pour le relèvement, le rétablissement et la guérison de Mélanie. C'était un mercredi. Ce jour-là, ma femme partait avec un groupe d'enfants assez important pour une sortie, un rassemblement d'enfants de la Guadeloupe. Et moi, j'étais donc seul à la maison avec Mélanie. Raphaël avait suivi sa maman puisqu'il faisait partie du groupe des enfants. Et je suis resté seul avec ma fille. Et j'ai prié. C'était le jour de la prière, de jeûne et prière pour notre fille Mélanie, avec tous les frères et sœurs de la Guadeloupe. Et je me suis tenu dans la prière. 8h, 9h, 10h, 11h, midi, 1h, 2h de l'après-midi. Oui, je me suis tenu pendant tout ce temps-là dans la prière, l'adoration, la louange, la lecture de la parole de Dieu. À 2h de l'après-midi, ma fille vient vers moi, elle était couchée. Elle me dit, papa, est-ce qu'on peut aller marcher? Et je dis, mais ma fille, comment tu te sens? Elle me dit, écoute, je te demande qu'on aille marcher. Alors je prends la voiture, on va sur le petit port de Pointe-à-Pitre, où il y avait la possibilité de faire le tour, en regardant les bateaux, c'est très agréable, faisait bon, c'est les Antilles. Et là, j'ai dit à ma fille, écoute, on va faire 300 mètres, même pas. Moi-même, j'ai dit 100 mètres et après on retourne à la voiture, il ne faudrait pas que tu te fatigues trop. Elle me dit, papa, on y va. On marche 100 mètres, 200 mètres, 300 mètres, 600 mètres. Et on marche. Et je la vois marcher d'une allure extraordinaire. Et pendant qu'elle marchait, je la vois reprendre des couleurs. Mais je dis, mais comment tu te sens? Elle dit, papa, je me sens pleine forme. Alléluia. Alléluia. Alors, qu'est-ce qu'on a fait le lendemain? C'était un jour férié, le mercredi en question. On est allé à l'hôpital de Pointe-à-Pitre. Et on a dit au médecin, écoutez, faites quelque chose, elle va mieux. Mais comme la plupart des médecins ont une crainte de Dieu aux Antilles, ils ont dit, mais écoutez, on va faire ce que vous nous dites. Et ils ont fait des examens et ils se sont rendus compte qu'elle était guérie. Miraculeusement guérie. Je termine en disant, mes frères et sœurs, rien n'est impossible à Dieu. Ça n'a pas eu lieu de suite. Puisque vous avez entendu, on a mené un combat. Mais parce qu'on s'est unis, parce qu'on a persévéré, parce qu'on s'est tenu à la brèche, parce qu'on a continué à faire confiance au Seigneur, alors il a étendu sa main, il a répondu à notre prière. Alléluia! Et je voudrais vous dire que Dieu l'a fait plus une fois, certainement pour vous, vous pourriez venir ici et dire, mais c'est vrai, le pasteur a raison, voilà, vous vous en souvenez mes frères et sœurs, Dieu m'a guéri de cela. Et peut-être quelqu'un ce matin ou plusieurs, et j'en connais quelques-uns, je connais mes brebis. Vous êtes malade, vous êtes épuisé, vous êtes fatigué, vous n'en pouvez plus. Je viens souvent vous visiter, je prie avec vous, je prie pour vous, je vous encourage. Et sachez que quand je parle en connaissance de cause. Pas seulement parce que je connais la doctrine biblique sur le point dont on a pris le temps de parler ce matin encore, je ne vais pas aller jusqu'au bout, mais il y a bien d'autres choses à voir. Et on les verra, je parlerai de Job, je parlerai de d'autres guérisons dans la Bible, ça fait du bien. Mais mes frères et sœurs, je crois qu'aujourd'hui, ça peut être le jour de votre guérison. Et mes frères et sœurs, je m'adresse à vous tous. Quand quelqu'un se réjouit, on se réjouit avec lui. Mais quand quelqu'un pleure, dit la Bible, on pleure aussi avec lui. Pleurer avec lui, c'est pas lui dire « Oh, mon pauvre, oh là là, c'est terrible ». Non, non, c'est pleurer dans le sens « On s'unit à lui avec compassion, prie avec lui », comme ça s'est passé pour ma fille et pour tant d'autres. Ensemble, on est plus fort. Dieu fait tout à merveille. Alors on va se lever quelques minutes, du moins, oui, tous ensemble, après tout, c'est toute l'Église que j'invite à se lever. Et puis, je voudrais inviter ceux et celles qui sont malades ce matin, quel que soit votre problème de santé, quel qu'il soit, il n'y a pas des problèmes de santé plus ou moins graves. Tous les problèmes de santé peuvent affecter, peuvent malheureusement épuiser, etc. On en a parlé ce matin. Je vais vous inviter à vous approcher sur le devant. Et je vais prier pour vous. Simplement, je prie pour vous. Vous venez avec la foi dans le nom de Jésus. Parce que vous allez venir avec la foi en Dieu. Parce que vous allez venir, pour certains, avec un cœur repentant. Parce que vous allez dire à Jésus, viens dans ma vie. Pour d'autres, c'est un besoin. Pour ceux qui appartiennent au Seigneur, Seigneur, renouvelle-moi dans ma santé, rétablis-moi. Tu le feras en ton temps. Ça peut être maintenant, ça peut être tout à l'heure, ça peut être dans la semaine. Alors je vous invite à vous approcher, maintenant, sans tarder. Alléluia, je vais prier pour vous, au nom de Jésus. Approchez-vous, vous qui êtes malade. Je sais, j'en connais certains. N'ayez pas honte, n'ayez pas peur. Vous avez compris qu'il y a l'amour de Dieu, il y a la grâce de Dieu. Il y en a certains qui sont en bonne santé, je bénis Dieu pour cela. Et si vous êtes en bonne santé, mes frères et sœurs, mes amis, tant mieux, mais priez pour ceux qui s'approchent ce matin. Priez pour ceux qui s'approchent. Priez pour ceux qui s'approchent. Parce que peut-être un jour, on va devoir aussi prier pour vous. Dieu est en train d'agir. Et en définitive, vous êtes en train de faire, et je l'évoquerai ce témoignage, comme la femme à la perte de sang, elle s'est approchée de Jésus. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait un acte de foi, elle a touché le bord du vêtement de Jésus. Elle a touché les franges de son vêtement. Et selon l'enseignement biblique, ça nous parle de la parole de Dieu. Les saintes écritures, rappel de la loi de Dieu, Dieu qui agit. Et sa parole, c'est Jésus. Amen, il agit maintenant. Je vais tout simplement passer très rapidement, mais c'est vous qui manifestez la foi. Et je demande aux autres, à leur place, s'il vous plaît, si vous n'êtes pas malade, de prier pour vos frères et sœurs, pour les amis qui sont là. Alléluia. Au nom de Jésus, tu guéris. Au nom de Jésus, tu guéris. Père, au nom de Jésus, tu guéris.